Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer les amyloses héréditaires à transthyrétine et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Émilien Delmont. Docteur Delmont, bonjour.
Bonjour.
Docteur Delmont, vous êtes neurologue, praticien hospitalier au sein du service maladies neuromusculaires et SLA de l'hôpital de la Timone à Marseille, service du professeur Attarian qui est également centre de référence pour les maladies neuromusculaires et la SLA. Vous avez aussi participé à l'élaboration du récent PNDS, le protocole national de diagnostic et de soins, sur les neuropathies amyloïdes familiales. Alors, docteur Delmont, pour commencer, quels sont les principaux symptômes de l'amylose héréditaire à transthyrétine et leur évolution si elle n'est pas correctement prise en charge ?
Alors, les symptômes sont multiples. Vous avez les symptômes qui sont les plus fréquents en France, c'est essentiellement des sensations bizarres au niveau des pieds, c'est des paresthésies qui peuvent être très douloureuses, généralement cinétiques et bilatérales. Vous avez aussi des patients qui vont se plaindre plus de problèmes de déambulation, essentiellement d'un stépage, donc quand on a le pied qui accroche, et c'est des patients qui sont capables de tomber. Au niveau des membres supérieurs, les patients peuvent se plaindre de symptômes qui sont assez banaux, puisque ce sont ceux des canaux carpiens, avec des paresthésies nocturnes qui touchent les trois premiers doigts, mais qui sont plus invalidants, plus sévères, et avec un déficit moteur qui va être beaucoup plus précoce et qui va toucher les minences ténas. Vous avez aussi beaucoup de signes de dysautonomie, avec une impuissance, une gêne pour uriner, ça peut être des malaises avec des hypotensions orthostatiques. Tous ces symptômes sont assez peu spécifiques et sont essentiellement évocateurs d'une neuropathie périphérique. Et les patients, comme il s'agit d'une atteinte multisystème, peuvent aussi se plaindre de plaintes cardiaques au niveau ophtalmologique, d'insuffisance rénale et de plaintes digestives. L'évolution est très péjorative et on a vraiment connu une révolution en moins de 10 ans puisque l'évolution était systématiquement vers une perte d'autonomie des patients qui finissaient malheureusement en fauteuil roulant ou impotents dans un lit, avec une espérance de vie qui était en moyenne de 10 ans pour la majorité des mutations de la transthyrétine.
Et face à un patient qui présente des troubles neurologiques, quels sont les principaux signes cliniques évocateurs, des signes d'alerte qui devraient faire penser à une amylose héréditaire à transthyrétine ?
Alors avant, on apprenait qu'il fallait que le patient ait des antécédents familiaux. C'était moi quand j'ai commencé vraiment d'aider l'amylose transthyrétine. Il y a des antécédents familiaux où les patients viennent de certaines zones, comme le Portugal, au-dessus de Porto, la ville principale, c'est Pavoie des Varzines, où viennent la majorité des patients qui ont des mutations Val50-méthionine de la transthyrétine, ou des Suédois, ou certains villages du Japon. Mais ça, on s'est aperçu que c'est toujours des signes d'appel, mais ce n'est pas les principaux. Vraiment, ce qu'il faut garder en tête, c'est une neuropathie avec une dysautonomie. Et c'est pour ça qu'il faut toujours chercher une dysautonomie quand on fait un bilan d'une neuropathie. Et puis, l'évolution rapide. Si un patient évolue trop rapidement, s'il s'aggrave, s'il a une amyotrophie précoce, et s'il y a un échec de traitement, maintenant, dans toute neuropathie qui s'aggrave et qui ne répond pas au traitement, on doit faire une biologie moléculaire de transthyrétine. C'est vraiment ça les signes principaux, les signes évocateurs.
Et en complément de ces signes d'alerte, est-ce qu'il existe des signes évocateurs de gravité de la maladie ?
Alors la gravité, vous avez bien sûr la gravité neurologique, un patient qui a perdu la marche, mais sinon ce sont des signes de gravité qui sont plutôt généraux, avec la perte de poids, qui est vraiment un bon indicateur, et puis des patients qui vont avoir une atteinte cardiaque, avec une insuffisance cardiaque restrictive, et un gros risque de troubles du rythme et de mort subite. Donc c'est vraiment l'atteinte cardiaque qui est la plus grave. Et exceptionnellement, il peut y avoir aussi des atteintes rénales. Nous, on a, sur notre cohorte, on a 2-3 patients qui ont une atteinte rénale symptomatique. Sinon, les autres ont une atteinte rénale, mais souvent peu symptomatique. Donc je pense que la gravité, ça tient au cœur, un petit peu au rein et à la perte de poids, à un état qui peut être cachectique sans traitement.
Et face à des patients, ces patients chez qui on suspecte cette fois-ci une amylose à transthyrétine, quels sont les principaux diagnostics différentiels à écarter ?
Alors, si vous vous mettez dans la forme portugaise qui est paresthésie des pieds, douloureuse et et dysautonomie, finalement, la cause principale, c'est le diabète, hein, qui est aussi la principale cause de neuropathie dans le monde et en France. Donc, c'est le premier diagnostic différentiel. Après, si on parle plus de la forme transthyrétine sporadique, des sujets français qui souvent sont beaucoup plus âgés, qui peuvent avoir... nous, ça nous arrive fréquemment de faire des diagnostics à 70 ans. Hein. Donc, il ne faut pas garder ce dogme qui était une maladie génétique, c'est pour les gens jeunes et les gens âgés, n'ont pas de maladie génétique. Donc, quand on se met dans cette forme, il y a beaucoup plus de douleurs et beaucoup plus de déficits moteurs, surtout avec une atteinte parfois non longueur dépendante. Le principal diagnostic différentiel, c'est la PIDC, la polyradiculoneuropathie diminuante inflammatoire chronique. Parce que cette neuropathie a une atteinte des membres supérieurs, des membres inférieurs, évolue rapidement. Et puis, on peut vraiment être perturbé par les examens complémentaires. Dans la PIDC, on a souvent une hyperproténorrhagie isolée. Eh bien, dans l'amylose, on a plusieurs patients qui avaient des hyperproténorrhagies supérieures à 1 gramme, vraiment significatives. Et même l'électromyogramme peut être trompeur avec certains critères qui peuvent rentrer dans les critères diagnostiques de PIDC, mais c'est souvent sur les nerfs médians où on est perturbé par le canal carpien. Donc vraiment dans ces formes du sujet français de révélation tardive, c'est la PIDC. Et autre chose, c'est l'amylose à L. Parce que, alors là, c'est dans les deux sens. Plus un patient est âgé, plus il va avoir de risque d'avoir une gammapathie monoclonale. Et quand ces gammapathies monoclonales sont généralement avec des chaînes légères lambda, on peut avoir une amylose. Donc, il va y avoir aussi la dysautonomie, aussi les douleurs. Et donc, parfois, on arrive chez des gens qui ont une amylose, qui ont une gammapathie monoclonale. Donc, on peut faire à tort le diagnostic d'amylose à L. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire en systématique la biologie moléculaire de la transthyrétine pour redresser le diagnostic différentiel. Donc vraiment, forme jeune, douloureuse, c'est le diabète, et puis dans les formes graves, c'est l'amylose à L, et la PIDC chez les sujets un peu plus âgés.
Pour terminer notre entretien, Dr Delmont, j'aimerais aborder avec vous l'errance diagnostique observée dans cette pathologie, comme dans de nombreuses maladies rares d'ailleurs. Pour l'amylose à transthyrétine, les patients peuvent subir un retard diagnostique important jusqu'à 3 à 6 ans avec des conséquences majeures puisque les symptômes qui s'installent sont en général non réversibles. Alors, Dr Delmont, pour lutter contre cette errance, comment faciliter le diagnostic précoce de l'amylose héréditaire à transthyrétine?
C'est d'abord une formation des neurologues. C'est que vous ne connaissez pas vraiment cette maladie. Hein. C'est vraiment les neurologues spécialisés qui, dans la neuropathie périphérique, qui connaissaient cette maladie. Et puis initialement, donc on a suspecté que chez les Portugais, souvent on faisait une biopsie de nerf et la biopsie de nerf montrait une amylose. Et dans ce cas-là, on pouvait faire une biologie moléculaire. Maintenant, vraiment, la biologie moléculaire, c'est démocratisé, c'est un sans guerre. On a le résultat en moins d'un mois. C'est fait dans plusieurs centres en France. Donc vraiment, la formation du neurologue, c'est devant toute neuropathie périphérique qui s'aggrave, chercher la dysautonomie. S'il y a une dysautonomie, si ça s'aggrave, surtout, faites la biologie moléculaire de la transthyrétine. Et nous, on le fait à l'excès. C'est-à-dire que dès qu'il y a le moindre doute, on va faire une biologie moléculaire de la transthyrétine. C'est devenu un examen de deuxième intention, pratiquement. On fait cette biologie moléculaire avant la biopsie de nerf. Donc maintenant, vraiment, on pense à cette biologie moléculaire de plus en plus. Il faut que les médecins soient de plus en plus informés sur ces diagnostics, parce qu'il y a des traitements. Et comme il y a des traitements aussi, il y a l'information dans la famille qui est devenue très importante. Quand on a une chorée de Huntington, ce n'est pas forcément recommandé à tous les gens de la famille de faire le dépistage. Il faut les informer, mais on ne va pas tarder sur le dépistage. Donc, que quand nous, on a un patient qui a une neuropathie amyloïde, il y a vraiment, on leur dit, c'est très important que vous en parliez à vos enfants, que vous en parliez à vos frères et sœurs, que la famille fasse le dépistage, parce qu'une fois qu'on sait que le patient est porteur d'une mutation de la transthyrétine, on va les suivre, sans les stresser non plus, mais on va les suivre régulièrement, et si la maladie débute, on va pouvoir débuter le traitement le plus tôt possible, et donc faire en sorte qu'il y ait le moins de séquelles possible. Donc vraiment, pour qu'il y ait moins d'errance diagnostique, c'est la formation des neurologues, ne pas hésiter à faire une biologie moléculaire, il vaut mieux avoir plein de biologies moléculaires négative pour de temps en temps faire un diagnostic, et puis l'information chez les patients et dans leur famille, et faire un dépistage pré-symptomatique. C'est comme ça qu'on fera le diagnostic de pratiquement toutes les neuropathies à transthyrétine. Et je pense qu'en ce moment, on découvre encore des nouvelles familles. Et je suis persuadé que les neurologues qui me remplaceront pour la nouvelle génération, ils vont plus découvrir des nouvelles familles de patients avec des mutations à transthyrétine. Je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment le dépistage dans toutes les familles actuelles et que dans le futur, ce sera des diagnostics chez des gens qui se savent porteurs de ces mutations, et grâce au développement de biomarqueurs, du suivi, on pourra débuter au plus vite et au plus précocement des traitements efficaces. On pourra lutter efficacement contre cette neuropathie et la transthyrétine.
Eh bien, merci infiniment, Dr Delmont, de nous avoir éclairé sur ces amyloses héréditaires à transthyrétine. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions de votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette pathologie. À très vite.